Nous allons parler de choses très simples et connues de tous. Elles sont simples parce qu'elles appartiennent à la nature et que nous les connaissons ataviquement. Si nous plantons une graine d'haricot à l'endroit adéquat, nous savons d'avance ce qui va arriver. Elle va germer, croître avec ses caractéristiques propres, va produire des haricots dans lesquels nous trouverons des graines semblables à celles que nous avons plantées. Cela arrive parce que chaque semence possède un programme génétique bien déterminé. Tout être vivant est ainsi. De sorte qu'on le sait ce qui va arriver pendant le développement. La même chose se produit donc pour l'être humain. Un bébé naît et nous savons qu'il attendra dans l'avenir les caractéristiques d'un adulte, homme ou femme. Tout cela nous paraît tellement naturel et partie de la nature que nous n'observons même pas les miracles qui se déroulent chaque jour sous nos yeux. Un bouton de fleur qui s'épanouit, un oiseau qui construit son nid, un enfant qui essaye ses premiers pas. Pour chaque être vivant, il se produit toujours un changement. Chez l'homme aussi, ces changements surviennent dès qu'il est conçu jusqu'à l'instant de sa mort. Ce que nous appelons développement. Peu importe si ce développement soit moteur ou du langage, ou intellectuel, ou même émotionnel, tout est développement. Des changements arrivent même à notre personnalité, suivant nos expériences et apprentissages. Ce n'est pas parce que nous sommes adultes que nous cessons de nous développer. Nous sommes toujours en train de changer, que nous le voulions ou non, grâce aux sages lois de la nature. Marcher, parler, penser. En étudiant le développement d'un être humain, de nombreux abordages peuvent être soulignés. Pour Rudolf Steiner, une des relations les plus importantes pour la connaissance et l'application dans l'éducation, et par l'extension également lors d'un processus thérapeutique, est celle qui existe entre la marche, la parole et la pensée. Il affirme que ces trois activités définissent l'être humain en tant que tel. L'homme est l'être qui marche debout, qui utilise un langage codifié et élabore des idées, c'est-à-dire qui pense. Il est important de comprendre comment Rudolf Steiner caractérise chacune de ses activités. Marcher n'est pas seulement se déplacer. Se mettre et marcher debout est seulement la marque la plus visible d'un processus beaucoup plus ample et complexe. C'est un processus évolutif qui amène l'enfant d'une position horizontale à une verticale. Il va devoir vaincre la force de la gravité et placer son corps dans l'espace avec l'équilibre et l'harmonie en dominant toutes ses directions spatiales. Jusqu'à arriver à se maintenir debout, l'enfant passe par plusieurs phases. Il roule, rampe, marche à quatre pattes et marche. Cela, cependant, se produit dans le cas d'un enfant qui a un développement tout à fait normal. Il peut, cependant, de ne pas passer incomplètement par toutes ces étapes. Et nous disons donc, avec raison, que par exemple, il a sauté l'étape de la marche à quatre pattes. Et pourquoi disons-nous qu'il a sauté une étape? Parce que, une fois de plus, nous savons qu'il est ataviquement naturel et normal qu'il marche à quatre pattes. Toutes ces phases sont propres à la nature humaine. Ils sont touchés par les impulsions d'organisme lui-même. Si elles appartiennent à la programmation génétique humaine, elles doivent naturellement être importantes au sein du développement d'un enfant. Parler n'est pas restreint à un seul langage oral, mais inclut tous les types de communication. Il existe plusieurs genres de langage, gestes, mimiques, lecture, écriture, mathématiques, musique, code morse et tant d'autres. De sorte que les enfants communiquent de plusieurs façons et que la première communication de l'enfant est son propre corps. Quand il étend des bras pour qu'on le prenne, cela n'est pas le moins une communication. Comme le dit David Boadella, même le silence absolu nous dit quelque chose d'une personne. il est impossible que l'individu ne puisse pas communiquer. Penser ne doit pas être compris comme la seule possibilité d'élaborer les idées, mais également comme les capacités d'apprendre et de s'adapter au milieu dans lequel vit l'individu. Relation entre la marche, la parole et la pensée. Il existe toujours un signe qui caractérise chacune de ces activités. Nous disons que l'enfant commence à marcher quand il se dresse et se déplace verticalement, ce qui arrive vers un an. C'est entre un an et demi et deux ans que nous pouvons dire que l'enfant commence à communiquer au moyen du langage oral. Et quand pouvons-nous dire que l'enfant commence à montrer sa capacité de penser, l'activité d'élaborer des idées? Pour Rudolf Steiner, cela arrive vers 3 ans, quand il commence à dire « moi » de lui-même. Ces trois activités sont liées, interdépendantes, et se développent parallèlement, bien que pour chaque âge, il existe prédominance de l'une d'elles, de même qu'il existe aussi une séquence lors de l'acquisition et de la manifestation de la caractéristique la plus évidente de chacune de celles-ci. Comme nous l'avons dit, l'enfant commence à marcher vers un an, à parler vers deux ans et à penser vers trois ans. Durant cette séquence, dit Rudolf Steiner, il y a une certaine dépendance d'une activité par rapport à l'autre. Il affirme, par un processus mystérieux de l'organisme humain, de la même façon qu'un enfant apprend à marcher, à s'orienter dans l'espace, à se déplacer d'un endroit à l'autre, la marche en vient à se manifester comme un langage. La parole est donc un produit de la marche, c'est-à-dire un produit de l'orientation dans l'espace. Rudolf Steiner poursuit, c'est un fait réel qui, quand l'enfant commence à parler, l'organisme entier est actif. Les mouvements extérieurs se transforment en mouvement intérieur du langage. Cette affirmation peut paraître très étrange, mais Quiros, le grand phoniatre argentin, admet aussi que tout le corps, tout le système nerveux central prend part au processus de la parole. Il est difficile de trouver une partie du système nerveux qui puisse ne pas avoir un rapport avec la communication ou le langage. Même la moelle épinière, qui pourrait paraître ne pas avoir de rapport avec ses fonctions essentielles, apporte aussi une contribution très importante, comme celle d'informer le cortex cérébral de l'existence de la posture, des mouvements des extrémités et d'autres parties du corps, ce qui permet à l'individu de disposer de tout son corps en fonction de la correspondance correcte des signaux et des symboles avec ses semblables. Nous réaffirmons donc qu'il n'existe pas de tissu nerveux central qui ne puisse arriver à être lié au langage dans l'ample acceptation de ce terme. Piaget, comme Quiros, s'y réfère également à la connexion entre ces trois activités décrites par Rudolf Steiner. L'intelligence sensorimotrice, ce que nous devons interpréter comme la marche de Rudolf Steiner, qui antécède le langage, prépare sous un terrain de l'action élémentaire, ce qui plus tard va se transformer en pensée réfléchie. Piaget affirme encore qu'il doit exister un pont entre l'intelligence sensorimotrice et la pensée réfléchie. C'est ainsi que se situe, c'est le langage qui se développe dans un ordre défini et se transforme en pensée seulement quand il est apte à s'y laisser transformer. Qu'est-ce que cela signifie ? Qui tout dépend d'une maturation neurologique pour pouvoir se manifester. Piaget et Rudolf Steiner disent la même chose avec des mots quelque peu différents. L'un parle de la marche, pour Piaget, l'intelligence sensorimotrice, de la parole, pour Piaget, le langage, et de la pensée, pour Piaget, la pensée réfléchie. D'autres auteurs traitent du même sujet avec des termes différents, mais qui signifie la même chose, c'est-à-dire des rapports entre les trois activités qui constituent la propre définition de l'être humain, marcher, parler et penser. On ne peut pas les séparer de la même façon qu'on le puisse diviser l'homme. De telle sorte que, comme la parole se développe à partir d'un processus de la marche, la pensée se développe à partir de l'évolution du langage. Si d'un côté, la parole est véhicule qui exprime la pensée, d'un autre côté, on ne peut penser sans langage. C'est en analysant toutes ces considérations que je me suis convaincue qu'il n'avait avancé à rien de placer un sujet devant un miroir pour lui apprendre à parler ou pour corriger certains défauts d'articulation, ou encore d'utiliser les jeux les plus divers de figurines dont les noms sont écrits avec les mêmes phonèmes. J'ai eu connaissance de la conférence de Rudolf Steiner sur la marche, la parole et la pensée peu de temps avant de conclure le cours de phonodiologie. J'ai terminé ce cours insatisfaite, non avec la partie théorique scientifique, qui d'ailleurs fut très bonne, avec des professeurs compétents et un programme très bien choisi, mais avec la partie pratique thérapeutique. Je ne voulais pas traiter les symptômes proprement dit, mais bien ce qui aurait causé ces symptômes, ou encore ce qui les avait précédés. Organisation neurologique, tempo fait. J'ai croyé en ce qu'avait dit Rudolf Steiner, qui sait le processus de la marche qui conduit à la parole. Restez à découvrir quel était ce processus. J'ai eu alors la grande chance de connaître le travail de Tempo Fay et ses disciples, Colde Lakato, Glenn Doman, Raymond Veras, Edward Lewin et d'autres. Les processus naturels de la connaissance humaine et un continuel appui sur les connaissances des prédécesseurs et la préparation de chemin pour ceux qui suivront. C'est ainsi que s'achemine toute l'humanité et son évolution de la connaissance. Lors de la rédaction d'un travail scientifique, d'une thèse, on exige des citations bibliographiques. En réalité, cela signifie que les idées nouvelles se sont appuyées sur des connaissances antérieures, de manière telle que la science forme une véritable pyramide, où chacun place son pied sous une épaule de l'autre. Il devrait aussi être disposé à s'offrir ses propres épaules pour que cette pyramide puisse continuer à croître. Mais il est très important que chacun ne se enorgueillisse pas du peu qu'il a réussi comme contribution pour ouvrir un nouveau chemin. Et nous devons encore moins oublier ceux qui nous ont offert par leurs épaules. Comme on peut le constater, la méthode consiste en des exercices très simples et qui appartiennent à la nature humaine. Ce ne sont pas des mouvements créés artificiellement ou imaginés. Ils sont si simples qu'ils peuvent amener des personnes à douter de leur efficacité. La nature est simple. Ses lois sont ici, à la disposition de ceux qui ont la capacité de les reconnaître, de les saisir et de les systématiser pour ensuite en disposer adéquatement. Comme l'affirme Einstein, il n'existe aucun chemin logique pour découvrir les lois élémentaires de l'univers. Le seul chemin est l'intuition. Le mécanisme de la découverte n'est ni logique ni intellectuel. C'est une illumination subite, presque une extase. Il est certain qu'ensuite l'intelligence analyse et que l'expérience confirme l'intuition. Rudolf Steiner est un peu fait. Ont eu ce privilège d'avoir eu l'intuition et l'intelligence pour confirmer cette intuition par l'expérience. Et j'ai eu la grande chance de connaître les travaux et de pouvoir en bénéficier. Revenons à la pensée d'Einstein, citée au début de ce travail. J'aimerais ajouter que je ne sais si je travaille avec la science ou avec l'art. Je sais seulement que le système nerveux, autant que de l'homme, sont encore mystérieux en regard de nos faibles connaissances. J'emploie un peu de l'art quand je récite des versets et en y accompagnant les exercices. J'utilise aussi la science parce qu'en étudiant le système nerveux, je prends connaissance des faits scientifiques éclairants, comme par exemple l'existence de la plasticité neurologique et des facteurs neurotropiques qui justifient pleinement le travail que je fais. Je répète que cette méthode est très simple, aussi simple que la nature elle-même, comme je l'ai déjà dit auparavant. et selon mon opinion, celui qui suit ce que la sage nature nous montre et enseigne a moins de chances de se tromper.